Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entre gars, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Tiffaine est sage-femme et elle a eu elle-même 3 enfants. Alors si l'on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, elle n'a malheureusement pas échappé à la règle lors de son premier accouchement. Dans cet épisode, Tiffaine nous raconte comment elle est devenue sage-femme, ce que sa propre maternité a apporté à son métier. Elle nous explique aussi toutes les facettes de ce métier finalement encore peu connu et rassure les mamans avec une simple phrase « Faites-vous confiance ». Bonne écoute. Bonjour Tiffaine.
Hey, salut Shane.
Merci de me livrer ton histoire pour ce nouvel épisode.
Ben, merci à toi.
Alors tu es sage-femme à l'hôpital de Niort.
Oui.
Comment tu en es venue à faire ce métier?
Alors, c'est une grande question à chaque fois. On me la pose tout le temps parce que c'est une vocation ou c'est pas une vocation? Alors, je savais pas trop au début, je me disais vocation. Pour moi, c'était un truc qui tombait du ciel, tu sais, le truc un peu mystique. Et ben... Non, enfin, en terminale, on te demande de choisir. Et j'ai choisi, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, tiens, si j'étais sage-femme. Voilà. Et puis après, je me suis renseignée, il fallait faire médecine. Là, je me suis dit, bon, ok. Là, mes parents, tu vas faire médecine. Ouais. Et puis, j'ai fait médecine, j'ai redoublé la première année. Et puis après, je l'ai eu. J'étais une ouf. Quand j'ai su que j'étais prise, je suis descendue dans les amphis comme ça, en mode Rocky Balboa. C'était un soulagement. Ouais, j'avais vraiment envie de faire ça. C'est fou, j'avais jamais lu de livre pourtant sur la médecine ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'était ancré en moi, j'avais envie de devenir sage-femme.
Qu'est-ce qui t'attirait?
Je sais pas, tout. C'est pas les bébés en particulier, hein, parce que c'est pas ça, parce que le métier de sage-femme, c'est plus vaste que de mettre au monde les enfants. C'est surtout auprès des femmes, en fait, donc je sais pas. Vraiment, à ce moment-là, je savais pas dans quoi je m'aventurais. Donc, mais c'était plutôt... J'avais envie, j'étais viscérale, et puis y parvenir, bah, c'était juste génial. Et puis en plus, enfin, les études de sage-femme, c'est pas les études à la cool. Vraiment, tu fais, t'alternes, garde, les moments de cours en cours. Donc, c'est 3 semaines... Nous, on faisait 3 semaines de garde, 3 semaines de cours, 3 semaines de garde, 3 semaines de cours. C'est un truc à te flinguer, quoi, mais c'était hyper enrichissant. Ouais, c'était... Enfin, j'ai appris plein de choses. Mais même sur nous, c'est bien.
Ça t'a conforté dans ton choix.
Ah ouais. Moi, je suis hyper fière de faire ce métier, quoi. Ouais. Tu vois, je me dis, ouais, je suis sage-femme. C'est un peu... Ouais. Et puis, ben, en plus, les gens sont... Ah ouais, t'es sage-femme. Alors, ils te racontent tous leur accouchement. Même ma belle-mère. D'accord, ok. Mais c'est, ouais, ça fait parler les gens, en fait. Tu vois, tu dis que t'es sage-femme, les gens, tout de suite, ils te racontent plein de choses. Et puis, c'est hyper enrichissant pour nous. Donc, voilà.
Et elle a duré combien de temps, les études?
Alors, t'as la première année de médecine, où t'as un concours, et après, t'as 4 ans à l'école. Donc, ça fait 5 ans, puis moi, j'ai redoublé, donc j'en ai fait 6 ans. Donc, j'étais sage-femme, tu vois, je suis sortie du bac. 24 ans, j'étais sage-femme.
À 24 ans, c'était...
Ouais. Okay. 10 ans.
Et est-ce que tu te souviens du premier accouchement que tu as fait?
Eh ben, on m'a posé la question. Et non.
Je n'en souviens pas.
Honte à moi. Non, en fait, tu te souviens plus des situations particulières qui m'ont touchée. Non, en 10 ans de sage-femme, je me... Non. Puis en plus, avec les 4 ans de... Ça fait 14 ans que j'ai fait mon premier accouchement. À 4 mains, tu vois, on fait avec la sage-femme qui te laisse un tout petit peu faire et tout ça. Je me souviens pas, est-ce que ça m'a pas marqué. Par contre, voilà, j'ai des situations qui me marquent plus particulièrement, ouais. Je pourrais te dire exactement, j'ai des visages qui me marquent, mais pas mon premier accouchement.
Bon, on en reparlera de ce qui t'a marqué.
Et alors, est-ce que ça a renforcé ton désir de maternité ou tout le contraire ?
Alors, non, il était déjà bien ancré, mon désir de maternité. J'ai une grande famille. Moi, j'ai 3 grandes sœurs et un petit frère.
D'accord.
Donc, je suis devenue... moi, j'ai vécu avec mes sœurs. Donc, c'est mes sœurs... je me souviens de mon enfance, c'est mes sœurs, en fait.
Mmh.
Donc, voilà, je savais que je voulais... Je savais que je voulais des enfants. Je savais que je voulais une grande fratrie. Bon... C'est avéré que maintenant 3, ça me suffit, hein. Mais je savais, voilà, avec mes sœurs et tout ça, je suis devenue tati à 14 ans. Je me souviens très bien d'avoir pris ma petite nièce dans les bras et d'avoir fait du babysitting pour ma sœur. Donc voilà, je savais, mais après, je savais pas quand, je savais pas si, combien, je me disais, allez, j'en veux 4 ou 5. Bon, il fallait trouver le mec, hein. Mais voilà, et pas spécialement. Je savais que je l'avais, mais me renforcer, non, j'étais déjà bien... je savais qu'en fond de moi, j'en voulais. Donc, non, pas plus que ça.
Donc, ça aurait pu provoquer le contraire, de voir les accouchements.
Ça aurait pu, oui. Dans certains cas, ça peut te bloquer. T'es là, ouf. Et surtout quand t'es enceinte et tu dis, je vais y passer bientôt. Et non, mais ça me bloque pas. Ça m'a pas non plus fait un flash. Non, je savais. Donc,
naturellement.
Ouais.
Et à quel moment, alors, tu as décidé de faire ton premier enfant ?
Eh ben, on s'est pas trop posé avec mon mari. Je savais que je voulais des enfants avant 30 ans, c'est marrant. Je me disais 30 ans, après on est vieux. Ah, la blague. Et puis, en fait, il s'est avéré qu'après mes études, je suis partie à Mayotte, je suis revenue à Paris. Mon compagnon était basé dans la Strasbourg, Colmar. Et on s'est croisés pendant pas mal de temps. Puis après, j'ai eu un poste. Lui a eu un poste à New York. Et puis, donc on s'est rejoints tous les deux à New York. Avant, c'était pas trop possible. J'avais pas en plus de métier, de contrat fixe.
Mmh.
J'étais en CDD, la galère, vraiment la galère. Parce que CDD, je faisais de l'intérim aussi. C'était pas une bonne époque pour les sages-femmes non plus. Il y en avait beaucoup sur le marché et pas beaucoup de travail. Donc j'ai eu des moments où j'étais en galère, vraiment au chômage. Je pensais pas du tout aux sages-femmes. On nous a dit à la sortie de l'école, c'est le plein emploi. Oui, non en fait, c'était pas le plein emploi du tout. Donc là, ça commence à aller mieux. Ouais, je pense que là, c'est le plein emploi et encore... Mais sinon, non. Et donc, on s'est basé à Niort. Lui, il a été pris à l'hôpital. Et puis, moi, ils m'ont dit, oui, on va vous prendre. Donc, j'ai un peu galéré avec... Je suis allée dans d'autres hôpitaux. J'ai fait un peu de clinique. Et puis, au bout d'un moment, j'en avais marre. Je suis allée à l'hôpital.
Hôpital public.
Hôpital public, ouais. Ouais, ça, c'est mon choix. Non, je veux plus aller dans les cliniques. Voilà.
Pourquoi ?
Et c'est un métier différent dans les cliniques. T'as les gynécos, c'est eux qui font les accouchements. Alors avec un peu de bol, tu les appelles un peu tard pour leur dire « Ah, oups, elle a accouché !» Mais au final, non, c'est toi qui fais... tu fais la petite main du gynéco. Nous, sage-femme, t'as une profession médicale. On peut faire plein de choses. Et à la clinique, non, c'est le gynéco. C'est pas du tout... C'est pas du tout agréable pour nous.
Les responsabilités, elles sont plus limitées.
Alors, c'est marrant parce que ma responsabilité, si jamais par contre tu fais un truc de travers, t'as la responsabilité. Mmh. Mais au final, t'es sous la coupe du gynéco, quoi. Non, moi, ça me plaît pas. Je suis sage-femme, j'ai une profession médicale, c'est moi qui m'occupe de la partie physiologie, tu vois. Quand tout va bien, c'est moi et c'est pas le gynéco, tu vois.
Et alors, c'est quoi le rôle d'une sage-femme ?
Alors, le rôle d'une sage-femme, c'est plein de choses. Parce qu'on peut être une sage-femme en libéral. Donc là, tu fais de la prépa, tu fais de la réduc, tu fais du suivi de grossesse, tu peux faire des échos, tu peux faire de l'acupuncture, l'homéopathie, tu peux faire... on a des DU de sexologie, c'est hyper vaste.
Mmh.
À l'hôpital, c'est pareil. On a en plus faire la salle d'accouchement, donc les suites de couches. Quand t'as accouché, des suivis de consultation, des IVG, voir des femmes avant, après. En fait, tu peux voir la femme de l'adolescence, jusqu'à hyper tard, jusqu'à la ménopause, tu peux voir les patientes. Tu peux prendre en charge la femme de A à Z. C'est génial. Ouais. Mais on le sait pas, en fait. C'est marrant parce que on se dit, on va voir un gynéco. Je lui dis, il y en a plein qui sur Instagram qui me disent, on peut voir une sage-femme. Mais oui, vous allez voir une sage-femme. Ouais. Allez-y, je vous encourage en plus, parce que pour poser un stérilet, pour poser un implant, pour faire de la contraception, allez voir une sage-femme qui va être à l'écoute, qui va vous... Voilà, et puis si jamais ça dépasse son cadre, elle vous enverra de toute façon voir un gynéco, voir quelqu'un d'autre. Mmh. Voilà, elle ne va pas vous garder précieusement, non, elle va vous envoyer à droite à gauche. Voilà, c'est ça notre rôle. Et puis on a un rôle aussi de prévention. Tu vois, on peut aller dans en PMI, on peut aller dans les écoles, on peut aller dans les collèges, les lycées, faire de la prévention. Il y a de moins en moins de fric, hein, mais excusez-moi, d'argent. Mais on peut faire aussi de la prévention. On peut vacciner les patientes, on peut vacciner les nouveau-nés, on peut... Ouais. C'est hyper vaste. Oui, oui, oui. Mais souvent, on ne le sait pas. Donc...
Intéressant.
Oui. On a un sujet... Enfin, moi, j'ai un métier intéressant. Si tu t'ennuies dans en salle d'accouchement, tu peux toujours aller autre part. C'est tellement vaste que tu peux faire plein de choses.
Et alors, comment s'est passée, toi, ta première grossesse ?
Alors, ma première grossesse. Donc, je venais juste de changer de... Justement, j'étais passée de la clinique à l'hôpital. Donc juste là, j'avais ce désir de maternité, tu vois, donc j'avais arrêté ma pilule en novembre, et le 1er janvier, j'allais dans un autre hôpital. Et au final, en décembre, je suis tombée enceinte. Et je suis arrivée un peu, le cheveu sur la soupe dans cet hôpital, et on m'a un peu trimballée à droite, à gauche, on m'a dit, tu vas faire la prévention donc au planning familial, tu vas aller, on allait me mettre dans un autre service, on me disait, ah t'es deux jours, à 10h on vient te charger, ah bah tu fais la nuit en fait en gynéco, enfin bon, c'était... Ouais. On m'a dit, tu n'auras pas de vacances, alors moi j'étais là en décembre, en décembre j'accouche en septembre, et en septembre, les congés maternité c'est tout l'été, alors quand elle me disait ça, et au final j'ai fait une fausse couche.
Ah d'accord.
J'ai fait une fausse couche à l'hôpital, toute seule. Et c'est là où je parlais d'un poste où vraiment on est toute seule. Quoi. Enfin, t'as beau avoir quelqu'un, moi je n'avais parlé à personne.
Ah oui.
Et là, à l'hôpital où j'étais, ben, je connaissais personne. J'avais confiance en personne parce que j'étais nouvelle. Donc je me suis retrouvée toute seule un jour à saigner en fait. Et puis je me suis dit, bon, je vais aller voir un gynéco à la clinique où j'étais pour qu'il me fasse une écho. Il m'a rien dit. Il m'a dit, on se revoit dans une semaine. Il m'a même pas dit que j'étais en train de faire une fausse couche. Quoi. Je suis repartie de là, je me suis dit, heureusement que je suis partie de cette clinique. Et puis en fait, j'ai trouvé une interne dans l'hôpital. Je lui ai dit, écoute, je crois que je saigne, mais je sais pas, on m'a rien dit. Elle m'a fait une écho, elle m'a dit, bon, t'es en train de faire une fausse couche. Et ben ça m'a. Enfin, au moins, j'avais une étiquette, j'étais pas là à me dire, bon, je fais une fausse couche, je fais pas une fausse couche. Bon, une heure après, j'étais dans les toilettes en train de saigner, de contracter comme une. Voilà. Donc bon. C'était un peu refroidi, et puis je me suis dit, après tu trouves des excuses quoi, enfin, tu me dis, oh bon, en même temps c'est pas plus mal, parce que sinon j'aurais été sur le bas-côté, on m'aurait dit, ah ben elle est à peine embauchée, déjà en congé maternité. Donc bon, j'étais très triste, mais en même temps, au fond de moi, peut-être un peu soulagée, enfin bon, c'était compliqué. Donc voilà, et puis après, elle m'a dit, bon, reste 3 mois, et dans 3 mois, tu recommences si tu veux. Non, 4 la tienne, 1 mois après, je recommençais, j'étais enceinte. Voilà, je me suis dit. et puis là, ils m'ont trouvé un poste, je faisais des consultations de grossesse. Donc j'avais un poste fixe, je faisais 9h-17h, et puis je faisais des consultations de grossesse, donc c'était assez hard, parce que franchement, tu fais tes consultations toute la journée. J'avais 1 heure de pause et puis après tu enchaînes. Mmh. Et en fait, j'ai vomi toute ma grossesse. Mmh. C'est-à-dire du moment où j'étais enceinte, 4 semaines, j'étais dans les toilettes toute la journée en train de vomir. Donc, les consultations de grossesse où quand elle te parle et t'as la...
Ah bah au moins, vous comprenez.
Oui, exactement, c'est exactement ça parce que j'étais... Désolée, je reviens. Donc, je partais du bureau, j'allais vomir, excusez-moi, dans les WC d'à côté, je faisais des allers-retours. Mes collègues ne comprenaient pas, tu vois. Et puis, à un moment, quand je leur ai dit, mais en fait, je suis enceinte. Mais pourquoi tu ne nous l'avais pas dit plus tôt ? Enfin, surtout une de mes collègues qui m'a suivie après pendant la grossesse. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Mais je suis là-bas. Enfin, voilà, j'avais les cernes comme ça. Je vomissais. J'ai pas passé une grossesse. 3 grossesses, je pensais que les 3 grossesses allaient être différentes. Ah non, les 3 grossesses, j'ai vomi du début à la fin. Ouais. Ah ouais, c'était... Non, j'ai détesté être enceinte. C'est horrible, mais j'ai détesté ça. Mmh. Moi qui ai une image de mon corps, enfin, pas top, je me voyais grossir, j'avais des seins comme as, je dormais mal, je voulais faire plein de choses, tu peux... Enfin, voilà. Je suis hyper dynamique comme fille, et puis je me voyais, dès que je faisais quelque chose, enfin, beaucoup de choses, et ben au final t'es fatiguée, tu bouges plus. Donc voilà, donc j'étais arrêtée à, je sais plus, 28 semaines, 25 semaines, je dormais plus, c'était très compliqué. Donc j'ai beaucoup culpabilisé de m'arrêter. Ah oui, je supportais pas, je me disais mais oh là là, je suis en CDD, j'étais en CDD. Je me disais mais non, tu peux pas être arrêtée, après ils vont t'arrêter ton contrat, tu fais, et puis au final ça a été une semaine comme ça où je culpabilisais, puis après ça s'est bien enlevé, la culpabilité. C'est ce que je dis aux parents, aux mamans, quand je leur dis ben je vous arrête, mais non je peux pas. Mais si, prenez soin de vous, je vous assure, c'est une grossesse, vous n'en aurez pas 10, prenez soin de vous. Alors si je vous arrête, c'est si, prenez-le. Et puis en fait, on voit que les femmes, elles ont du mal à accepter, parce qu'elles travaillent, on leur met une pression de dingue, et puis on leur dit arrêtez. Mais non, parce qu'ils vont penser quoi, les gens? Que vous êtes fatiguée, vous portez un bébé, donc vous portez la vie. Peut-être que c'est bien de s'arrêter.
Ouais. Le regard de la société pour l'instant.
Oui. Ouais, je pense que vraiment, pour une femme qui travaille, c'est hyper difficile. On se dit, mais c'est bon, ça va, t'es juste enceinte. Alors oui, enceinte, c'est pas une maladie. Hein. Donc on va pas, si on vous arrête, c'est que y a de la fatigue. Mais en aucun cas, c'est sûr, des patientes qui vont très bien, donc tant mieux, elles vont jusqu'au bout, mais celles qui vont pas bien, et on les arrête. Ouais, basta.
Et alors, comment ça se passe un premier accouchement quand on est soi-même sage-femme?
Je crois qu'on occulte complètement le fait qu'on soit sage-femme.
Ouais.
Moi, je me suis préparée, je voulais accoucher sans péridurale. Ouais. Bon, premier, je voulais pas de péridurale. Donc je me suis préparée avec une copine, j'ai une copine sage-femme en libéral. Okay. Et donc on a fait des cours de sophro, j'ai fait avec elle, voilà, on s'est préparé pour avoir un accouchement sans péridurale. Donc j'ai de la chance parce que je suis dans ce milieu, j'ai choisi ma sage-femme qui devait m'accoucher. J'ai choisi une autre sage-femme qui devait venir à la maison. Dans un premier temps, je voulais pas aller à l'hôpital tout de suite, je voulais faire mon travail chez moi, j'avais une baignoire, j'avais mon mari, je voulais un truc vraiment cocooning. Donc elle est venue chez moi quand j'ai eu les premières contractions. Je suis quand même allée bruncher avec les contractions, il y avait un brunch prévu, je suis allée bruncher le dimanche, tout ça. Je soufflais, puis après j'en ai rentré à la maison, on a fait un tour de pâté de maison, c'était le début du travail, j'ai appelé ma copine qui est venue. Et mon autre copine qui devait m'accoucher, elle devait partir à ce moment-là. C'est mal tombé. Elle m'a dit, non, je suis sur la route, je pourrais pas venir. Bon, c'est pas grave. Et donc, on a fait vraiment à la maison le début du travail. Donc, des bains, enfin, c'était vraiment c'était très bien. Et puis, en fait, au bout d'un moment, ça commençait à être très, très dur. J'avais des contractions sur contractions. Donc, ma copine me dit, écoute, là, je pense qu'il est temps d'aller à l'hôpital. Voir, j'étais à 6 cm. Elle me dit, là, je pense que c'est le temps que je fasse le relais avec ma collègue de l'hôpital. Donc, je suis arrivée là-bas et je suis tombée sur une collègue que j'adore et qui était là aussi pour les deux autres. Donc, tu vois. Et puis, j'avais choisi aussi une copine auxiliaire qui devait être là aussi.
Donc, c'est l'avantage d'avoir toutes ces copines.
Ah, ouais. Non, mais ça, c'est juste génial. J'ai choisi ma sage-femme. J'étais dans un... Enfin, voilà, c'était super. Et au final, je suis arrivée assise, c'était très douloureux, je commençais à vraiment, j'étais jamais beau être dans ma bulle, tu vois, ça commençait à être vraiment difficile. Je suis allée dans le bain, je suis retournée dans le bain, je suis sortie du bain, j'étais toujours assise, ça commençait à patiner, enfin j'ai craqué, j'ai dit, écoute, non, là c'est bon, on met la péri parce que j'en pouvais plus, quoi. Donc oui, ils m'ont mis la péridurale, j'ai pu un peu me reposer, et puis j'ai accouché à 7h30, tu vois, donc c'était assez long quand même. 7h30, par ventouse, non, mais j'étais dans un état, je pense, après... Pour moi, c'est un échec, hein, d'accord. Une sage-femme qui accouche par ventouse, ouais, vas-y, quoi. Elle donne des conseils pour les autres, mais c'est pas se les appliquer à soi-même, quoi. Moi, pour moi, c'était vraiment... Voilà, j'ai vécu comme un petit échec, quand même. Et bon, après, j'ai ma fille sur moi. Ça n'a pas duré beaucoup, parce que, en fait... une demi-heure après, ou une heure, je sais plus, c'est très compliqué au niveau des horaires, j'ai plus du tout la notion du temps à ce moment-là. J'ai fait ce qu'on appelle un thrombus, en fait, c'est... ils m'ont recousu après l'accouchement, et j'ai eu une grosse plaie au niveau du vagin, mais très loin, qui a filé, et donc un vaisseau qui... des vaisseaux, plusieurs d'ailleurs, qui n'arrêtaient pas de couler. Donc ils ont recousu. Et enfin, au bout d'une demi-heure, ça n'arrêtait pas quand même. Donc c'est le thrombus, c'est une hémorragie dans la muqueuse vaginale. Et c'est un coup de pas de bol. Hein. Et donc j'ai eu ça. Et ça se voit une demi-heure après. En fait, c'est le signe du thrombus, c'est la douleur. C'est fait horriblement mal. En fait, c'est, ça te gonfle les tissus. Ouais. Tu fais une hémorragie interne, ça te gonfle les tissus. Et voilà, moi je me souviens de cette douleur. C'est juste une horreur. Ouais. La douleur, elle est horrible. Donc j'avais mal. Ça montait. Et on m'a anesthésiée pour me reprendre au bloc.
Donc ils avaient pris ta fille à ce moment-là ?
À ce moment-là, j'avais donné juste la tétée d'accueil, je crois. Et puis à ce moment-là, ils ont repris ma fille. Enfin, mon mari a repris ma fille. C'est lui qui l'avait après contre lui. Et donc je suis passée au bloc. Je suis après allée en salle de réveil, je ne pourrais pas te dire. En gros, à 7h30. Et je suis... en fait, ça n'arrêtait pas. Même au bloc, ils n'ont pas réussi à ce que le vaisseau ne saigne plus. Et donc, à 18h par là, donc tout ce temps-là, j'étais en salle de réveil, ma fille était à côté, hein, je sais qu'elle était là, mais impossible. Enfin, j'avais même plus de... Ils me shootaient parce que pour éviter la douleur. Puis à 18h, ils ont pris la décision de m'envoyer dans un autre, au CHU, où je pouvais être embolisée. Embolisée, c'est cramer le vaisseau qui... le brûler pour que ça s'arrête de saigner. Donc ça, on n'avait pas ça à Niort. Et donc, à partir de là, mon compagnon qui était là tout le temps, lui à 18h, je lui ai dit, écoute, va te reposer, va au moins te toucher. Donc je lui ai rappelé en disant, il m'envoie sur Poitiers. Donc il m'ont transfusé parce que j'avais beaucoup, beaucoup saigné. Et puis après, je suis partie en hélicoptère, attention, sur Poitiers. Ouais, super. Tout le monde dit, ah, t'as fait un tour d'hélicoptère. Oui, non, mais j'étais tellement shootée. Et puis il faisait nuit en fait, donc je t'ai rien vu du tout. T'es comme ça, t'es attachée, sanglée. Et puis j'avais juste envie de pleurer. Enfin, je pleurais. Donc voilà. Ma fille, elle est restée à Niort. Et moi, je suis partie avec mon compagnon nous a suivis. Je suis partie à Poitiers. À partir de là, bah, c'était juste la descente aux enfers. Enfin, bon. Je ne sais pas si j'aurais pu être plus mal que j'avais été mal, si, en fait. Donc là, ils me disent, bon, ils m'enlèvent, enfin, ils regardent, oh non, ça ne saigne plus, allez, on va surveiller. Donc ils m'ont mis en attente. Ils m'ont piqué dans tous les sens, allez, on essaie de piquer, puis quand t'as plus, enfin, quand moi j'ai été transfusée, ils m'ont piqué au pied, ils ont essayé partout. Enfin, bon. Bref, et puis ils m'ont mis une pompe à morphine, ils m'ont dit, bon, si vous avez mal, vous appuyez. J'appuyais, ah oui, j'appuyais. Et puis en fait, j'étais en attente. Et puis j'appelais en disant, mais non, là, ça va pas. J'ai mal. Je me disais, ah, mais non, ça va mieux. Non, je sais, je saigne. Moi, je le sentais, tu vois. Je sentais qu'il y avait un vaisseau qui faisait... Tu vois, qui saignait. Mais personne qui écoute. Donc, mon compagnon, au bout d'un moment, enfin, j'étais tellement mal. Au bout d'un moment, je le regarde, je lui dis, écoute, je crois que j'ai envie de mourir. J'ai envie de mourir. Donc, voilà. Et donc, à ce moment-là, je pense qu'il a juste pété un plomb. Il est allé voir les gens. Il a dit, bah non, mais là, je crois que ça suffit, quoi. Enfin, faites quelque chose, parce que... Et donc, enfin, ils m'ont emmené à l'embolisation. Il était 2h du matin. Donc, depuis 7h30, ça a été un petit peu compliqué. Voilà. Et après, à 2h du matin, j'ai été embolisée. Ça allait mieux. Ils m'ont mis en salle de réveil. Vraiment, alors, c'était... la douleur qui reste, tu sais que tu saignes plus, enfin t'es juste une larme. Donc voilà. Excuse-moi.
Et alors au bout de combien de temps t'as pu retrouver ta fille ?
Eh ben elle est arrivée, j'avais accouché donc le lundi à 7h30 et je l'ai retrouvée le mardi à 18h. Ouais. Donc mon compagnon me l'a amenée à ce moment-là. Et voilà, j'étais contente, mais en même temps, c'était bizarre. J'avais encore des perfusions partout, des médicaments pour ne pas avoir mal. Donc, je l'ai gardée, mais en fait, je ne l'ai pas gardée la nuit parce que j'étais trop fatiguée. Donc, on me l'a mise en pouponnière. Il n'y avait pas de pouponnière, mais elles m'ont quand même pris. Et donc, je l'ai eue vraiment, je l'ai allaitée parce que je devais l'allaiter. Le lendemain à 8h. Et puis on m'avait dit, bah, si tu veux allaiter, il faut arrêter la morphine. Ok, donc j'ai arrêté la morphine alors que j'avais mal, mais je me suis dit, de toute façon, tu serres les dents, et puis comme ça, t'allais être ta fille. Donc, en fait, la première tétée, je l'ai eue à 8h, le mercredi. On m'a passée dans une autre chambre, et puis après, on m'a laissée avec ma fille. Voilà. Et j'avais ma fille. Bon, c'est ma fille. Ok. Mais moi, je la voyais pas du tout comme ça. J'avais pas cet élan d'amour pour elle. Quand on me dit... tu vas voir, tu vas la regarder, et puis tu auras le... Moi, je la regardais, j'étais là, mais c'est ma fille. D'accord, je la prenais dans mes bras. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi, en fait? C'était trop bizarre. Vraiment, j'en ai parlé à personne. Personne ne savait. J'étais là, mais je la regardais. Je me disais, mais... Quand on me disait Noélie, Noélie. Ah oui, elle s'appelle Noélie. Alors, mais c'était... On avait le choix de deux prénoms avec mon compagnon, et... À la dernière minute, il avait choisi Noélie. Et puis, bon, bah, c'est Noélie. Ok. Oui, elle me ressemblait pas du tout. Elle avait les cheveux noirs. Elle avait les yeux bleus très foncés. Elle était un petit peu typée asiatique. C'était trop bizarre. Et puis, ouais. Je suis sortie au bout de 5 jours. J'en avais marre de cet hôpital. Et puis on m'allait. Enfin, j'étais sage-femme. Tu sais faire quand t'es sage-femme. Tu sais allaiter. Tu sais faire, il n'y a pratiquement personne qui venait me voir pour l'allaitement. Bon, allez, vas-y, je me suis dit, allez, je suis aussi bien chez moi, quoi. Donc, avec une copine qui passe me voir, justement. Et puis l'allaitement, ça s'est passé, mais super. Elle n'avait pas tété pendant 48 heures, je l'ai mise au sein, elle a tété comme un chef, j'ai eu une montée de lait 12 heures après. Enfin, ça a été, je pense, c'est ce qui a sauvé notre relation avec ma fille, c'est l'allaitement. Parce que j'étais... je savais pas, j'avais pas ce truc. Alors il fallait que je la nourrisse, ok, bon, je la nourrissais. C'était des gestes automatiques. J'avais pas cet amour. Et donc, j'ai eu du mal. J'en ai parlé à ma collègue qui m'a accouchée. Enfin, qui m'a pas accouchée, qui m'a suivi toute la grossesse. Elle me dit, mais va voir un psychologue, va voir quelqu'un, fais-toi aider. J'ai repris le boulot, mais j'étais comme ça, j'avais mes mains qui tremblaient, je savais plus où j'étais, je me disais, mais je vais quand même pas pouvoir prendre en charge une patiente, j'arrivais pas, j'avais à me dire, mais j'ai pas accouché comme je voulais, j'ai tout parti en live. J'étais vraiment dans un état, et je suis allée voir mon psy. Ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai parlé avec elle, elle m'a dit, mais mettre des mots sur les mots, c'est vraiment ça. Elle m'a dit, mais vous avez vécu des choses traumatisantes. Oui, c'est traumatisant, mais de votre fausse couche toute seule à votre accouchement, maintenant, c'est normal. Donc, de ne pas aimer son bébé tout de suite, ben voilà, je ne l'avais pas aimé tout de suite. Je l'ai aimé, en fait, plus je la prenais, plus je l'allaitais, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à l'aimer. Ça n'a pas été les fusions, non, ça a été au fur et à mesure, petit à petit. On décrit ces choses-là, mais moi, je ne les avais pas vécues comme ça, et voilà. Et puis moi je le dis maintenant, mais dites-le, faites-vous aider, parce que c'est tellement important cette relation. Voilà, j'ai perdu 4 mois, enfin j'ai peut-être pas perdu, mais tu vois, je m'en suis voulu, mais vraiment je m'en voulais de me dire ça, de me dire, mais c'est pas ma fille, je l'aime pas, enfin je l'aime mais je l'aime pas, je dis à tout le monde je l'aime, mais ça me paraissait bizarre de me dire d'aimer quelqu'un comme ça. C'était très très bizarre. Et puis après au fur et à mesure, je me suis dit, si, je l'aime. Oui, je l'aime. Alors, j'étais, oui, je t'aime, toi. Et voilà. Mais ce qui m'a vraiment aussi réconfortée, c'est de me dire, bah, j'en veux un deuxième. Je veux absolument un deuxième pour soigner ça, quoi.
Ouais, vraiment. Ce que tu me disais, donc t'as enchaîné.
J'ai enchaîné. Au bout de même pas 9 mois, je suis tombée enceinte. C'était pas dans nos projets, mais tant pis, je suis tombée enceinte. Mon mari, ok. Bon, de toute façon, voilà. J'avais besoin, c'était viscéral. Ouais, la grossesse c'était pareil, hein, c'était compliqué quand même. Mais l'accouchement, ça a été. L'accouchement de la deuxième, ça a été vraiment mon renouveau, je sais pas, tu vois. Ça a été quelque chose de. Ouais, j'ai accouché comme je voulais avec mes collègues qui m'entouraient. Enfin, ça a été hyper rapide. Ça a été juste le bonheur. Et puis j'ai eu ce sentiment-là. On me l'a posé contre moi. Et puis là, voilà, c'était les fusions. Enfin, j'ai senti ce truc-là. Ouais. Donc, je sais. Et puis maintenant, ça me change dans quoi? Ça me change dans ma prise en charge. Je me dis, mince, ces patientes on leur enlève leur bébé, mais je sais que plus tard, ça peut, tu vois, ce lien mère-enfant, il faut le préserver à tout prix, quoi. Il faut le préserver à tout prix. Et puis, il faut en profiter. Ces deux heures-là, il faut vraiment en profiter. Les deux heures qu'on a après l'accouchement, il faut être dans cette bulle. Il faut garder cette bulle-là. C'est vraiment... Ouais. C'est assez important.
Et du coup, comment tu fais, toi, pour rassurer les mamans dans ces cas-là?
Alors, j'essaie de pas trop m'impliquer aussi perso... Enfin, c'est difficile d'avoir un recul, tu sais. T'as accouché, tu sais que t'as eu un truc horrible, mais tu t'en sors. Alors, quelquefois, quand j'ai des patientes que je revois et elles ont eu des épisodes comme ça, hein, traumatisants, je leur dis, mais rassurez-vous, parce qu'un deuxième accouchement... Ça se passe complètement différemment, normalement. Enfin, on ne peut pas avoir deux accouchements pareils. Faites-vous aider, je leur dis ça aussi. Mais quelquefois, ils n'entendent pas, mais je leur dis, prenez le temps, faites-vous aider. Allez voir quelqu'un, parlez-en à quelqu'un d'autre. Ne restez pas avec votre malaise, ne restez pas, surtout pas. Franchement, c'est la pire des choses. Vous n'êtes pas seul, surtout, vous n'êtes pas seul à ressentir ça, en fait.
Ouais.
On n'est pas toute seule. Ce sentiment-là, il y en a d'autres qui le vivent aussi.
C'est un gros sentiment de culpabilité
aussi. Ah ouais, oui. Ça, la culpabilité, on l'a. Hein. Donc, il faut pas culpabiliser de ça. En plus, on peut s'en sortir. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire.
Et alors justement, soit sur ton compte Instagram, tu prends la parole pour donner ton point de vue médical et aussi quelques conseils. Est-ce que tu penses qu'il y a un manque de communication sur le sujet de la maternité ou du corps de la femme en général ?
Ah, du corps de la femme, oui. Alors de la maternité, on entend beaucoup de choses, mais du corps de la femme, beaucoup de femmes se... Ah oui, ça, c'est sûr qu'on ne connaît, on se connaît très peu au final. C'est ce que je vois quand je parle à des femmes qui viennent en consultation, mais il y en a certaines, c'est sûr, on ne communique pas assez là-dessus. On a des représentations, je pense, de la femme, mais on ne sait pas vraiment comment ça marche, ni soi-même. Mmh. J'ai plein de patientes, même de femmes qui viennent me voir en disant « Non, mais là, c'est pas normal, ou si, des logorées comme ci, des ça. » Mais si, c'est ça, c'est normal. Alors, je ne sais pas, enfin, il faut... C'est bien de le dire. C'est pour ça que je le fais sur Instagram. C'est que c'est vrai que souvent on me pose plein de questions et je me dis oui, j'ai mon rôle à jouer là-dedans. Alors peut-être que je peux pas faire de la prévention dans mon métier vraiment, mais faire de la prévention sur Instagram, je trouve ça génial. Enfin, il y a tellement de choses à faire autour de la femme. Ouais, je me sens bien investie là-dedans. J'aime ce que je fais, j'aime la femme, j'aime ce qu'elle... Voilà, il faut vraiment... on a un corps sublime, on a vraiment une machine, le vagin, mais c'est tellement... Non, mais c'est vrai, c'est un réservoir sans fin, mais c'est vraiment ça, l'utérus, tout ça, mais même le clitoris. Enfin, vraiment, on a un super pouvoir, quoi. Donc, je me dis, il faut que tout le monde le sache.
Et est-ce qu'il y a des questions qui reviennent souvent ?
Il y a beaucoup de questions sur est-ce que je vais aimer mon bébé autant que le premier ou autant que le deuxième, ça revient beaucoup. Il y a plein de questions qui reviennent beaucoup, comme ça je pourrais pas te dire. À y réfléchir, il faudrait que j'y réfléchisse un tout petit peu plus longtemps.
Et sur les réseaux, du coup, elles te posent des questions plutôt en privé ou en public ?
Ah, en privé, il y en a beaucoup. Hein.
Ouais.
En privé, oui, on vient me poser des questions, surtout après des posts que je fais. Au final, sur la contraception, j'ai fait des posts sur la contraception, il y en a beaucoup qui sont venus me voir, mais même en public, mais il y en a certaines, elles n'osent pas en public, donc elles viennent me voir en privé. Oui, oui, j'en ai eu beaucoup. Et surtout, je vais aller voir mon gynéco. Ah, mais non, en fait, il ne m'a rien dit, il ne me dit rien. Je dis, allez voir votre sage-femme, ou une sage-femme, je sais pas, prenez le temps. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui me disent, oh mon gynéco, franchement, il prend pas beaucoup de temps. Alors, je les plains pas, je sais qu'il y a très peu de gynéco, on a très peu de rendez-vous, hein, ça c'est clair. Je me dis, si vous allez bien, allez voir une sage-femme, ça peut-être qu'elle prendra plus le temps avec vous.
Ouais.
Mais oui, beaucoup, juste après mes postes, j'ai beaucoup de... La dernière fois, j'ai fait sur les leucorées. Et là, j'ai eu beaucoup en privé. Les gens, les locaux, en public, je crois que ça n'a pas bonne pub. Mais en privé, j'ai eu pas mal de questions. J'ai fait ça, j'ai eu ça, est-ce que c'est normal? Bon, voilà, moi, je suis derrière un écran, hein, je vois pas, je peux pas vous dire. Donc, ouais, j'ai eu pas mal de questions, ouais. Donc, c'est bien, j'essaie de répondre, hein, mais c'est vrai qu'après... aller voir, je me dis, bah, allez voir quelqu'un peut-être, mais voilà, je peux pas vous faire une consultation comme ça sur Instagram, c'est pas possible. Hein. Je veux bien répondre à des questions, mais après, faut aller voir quelqu'un.
Et alors, est-ce qu'il y a un événement qui t'a bouleversé, toi, en tant que sage-femme, pendant un accouchement? Donc, t'as eu, toi, ton accouchement, et est-ce que t'as eu un...
Oui, mais surtout dernièrement, là, j'ai eu un couple qui était venu à terme, pour des contractions, elle était venue, son terme était 2 semaines après. Et au final, on n'a pas trouvé le cœur du bébé. Quand on pose un monito, elles arrivent en consultation, on pose systématiquement un monitoring. Ma collègue vient me voir, me dit, bah, je sais pas, je trouve pas le... je n'entends pas les bruits du cœur, donc j'y vais. J'y vais avec un appareil d'écho pour voir. Effectivement, bah, je voyais plus le cœur battre. Donc là... déjà, ça te fait quelque chose parce que eux ils sont dans l'euphorie. Ils pensaient accoucher d'un bébé sain, vivant. Et toi, tu leur annonces que ce bébé, ben, elle va accoucher, mais d'un bébé qui est mort. Et je crois à ce cri de. Quand on annonce la mort de quelqu'un, mais elle a eu un cri, mais ça te reste à vie, quoi. Alors c'est frais, c'est pour ça que je l'ai encore en mémoire, j'ai encore le couple, je sais exactement, je vois le bébé, enfin tout. Ça te marque, c'est des prises en charge qui te marquent.
C'est toi qui as fait l'accouchement?
J'ai fait l'accouchement. C'était une prise en charge vraiment très douloureuse pour eux. Enfin, nous, tu essaies de porter ses parents, tu les portes sur tes épaules parce qu'il faut que toi, tu sois leur pilier, quoi. Faut que... Et nous, c'est vraiment des prises en charge... Vraiment, ça te marque, c'est clair. Parce que c'est aussi ton rôle. T'as le rôle de ce rôle-là. Oui, tout va bien, mais aussi t'as le rôle, ce rôle-là. C'est ton rôle quand même. Tu fais de l'accouchement, les bébés qui sont décédés, ben oui, c'est aussi ton rôle en fait. T'as ce côté-là. Et ça, souvent on l'oublie. On dit, oh, la sage-femme, c'est tout rose, tout beau. Ah, punaise, oui. 3/4 du temps, c'est comme ça. Et puis après, t'as ce petit laps de temps où oui, bah, t'as quand même ça, le côté sage-femme, c'est stressant, c'est bouleversant, tu portes sur tes épaules des parents comme ça, enfin c'est... Ouais, et je les ai revus, enfin bon, après je les ai revus une fois l'accouchement fini, et puis le lendemain, et puis on a reparlé, et puis on s'est dit qu'on se reverrait dans une autre situation, donc c'est positif, mais c'est dur, c'est dur.
Et toi t'as un suivi
Non, on n'a pas de suivi, nous, hein, tu vois. Okay. Après, on a une psychologue dans le service pour les femmes. Si jamais on a besoin, je pense qu'elle est présente, tu vois. Mais après, j'ai besoin d'en parler, et j'en parle beaucoup avec mon compagnon. On en parle beaucoup de nos situations. Il est dans le milieu médical, donc ça arrange. Donc, on parle. Lui, il parle de ses situations, même si je ne veux pas trop savoir. Et puis, moi, je parle de mes situations aussi, ouais. Ouais. Et puis, entre collègues aussi, tu vois. Entre collègues, on se parle beaucoup. On a une super équipe. Et c'est vraiment super. Ça, c'est hyper important. Parce que t'es pas seule. J'étais pas toute seule à faire l'accouchement. Hein. J'avais ma collègue auxiliaire qui était là. Après, tu fais les soins du nouveau-né. T'as ta collègue auxiliaire. Donc, on est vraiment, tu vois... c'est par binôme. Tu fais les accouchements, c'est par binôme. T'es pas toute seule, sage-femme. T'as ton binôme auxiliaire. Donc, tu puises dans l'énergie de l'une et de l'autre. Tu vois, tu te relais. Ça, c'est super.
Et est-ce qu'au contraire, t'as un événement... Tu as marqué complètement.
Oui, c'était trop drôle. En fait, c'était une patiente qui était très catholique. Et elle venait pour son 3e ou 4e enfant à coucher. Et donc, elle arrive, elle était en travail. Mais j'ai jamais vu quelqu'un. Elle avait son chapelet de très pieux. Et aucun bruit ne sortait de sa bouche quand elle avait des contractions. Tout était dans la concentration, mais c'était juste... Et donc, moi, j'ai un nom de famille un peu pieux. Donc, ma collègue me dit, ah, vas-y, vous allez super bien vous entendre. Donc ma collègue auxiliaire me disait, m'appelait Madame, alors que d'habitude, elle ne m'appelle pas mon prénom, Tiffaine, tu vois. Elle me dit, Madame, et donc, la patiente, elle était... Qu'est-ce que mon nom de famille, elle était, ah, oui. Et donc, on l'a mis dans la salle, elle allait accoucher, puis, bon, le bébé était là. Et elle me dit... J'ai dit, bah, vous allez accoucher. Non, non, c'est pas le moment.
D'accord.
Okay. Donc toi, tu dis, bon, bah, vous m'appelez, en fait. Le bébé était vraiment juste là, je voyais ses cheveux. Ok, et puis, donc on sort, je la laisse, et puis... sonne, je sais pas, 10 minutes après. Je pense qu'elle avait fini, peut-être. Lui, il était en. Il sortait de... C'était un dimanche, donc il sortait de la messe. Enfin, vraiment, c'était. Et puis, juste, je suis allée. Elle a poussé une fois, mais dans le calme absolu. Ouais, moi qui ai accouché sans péri, je me dis, j'étais. C'est pas possible. Et elle a sorti son bébé. Enfin, c'était juste, juste magique. C'était, j'avais l'impression d'avoir une. Tu sais, d'être bénie à ce moment-là. Vraiment, c'était. C'était une ambiance particulière. Non, mais on a vraiment rigolé. C'était, ils étaient vraiment super gentils. Et après, donc, ils me disent le prénom du bébé. Et puis, ils me voient mon nom. Ils me disent, oh, quand même, d'avoir été accouchée par une sage-femme avec un nom pareil, c'est, je crois qu'on est bénis. C'était, ouais, c'est des bons moments. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de bons moments, heureusement.
Et alors, du coup, toi, tu as maintenant 3 enfants.
Ouais.
Comment tu gères ton équilibre vie pro, vie de maman? Parce que j'imagine que tu as des horaires décalés.
Ouais, donc moi je fais des gardes de 12 heures. Donc je fais des nuits, des jours. Je fais des week-ends. Donc on a un emploi du temps un peu compliqué. Heureusement qu'on a un agenda partagé avec mon mari. Parce que lui fait des astreintes, moi je fais des gardes. Heureusement on a des beaux-parents qui sont à 40 minutes de chez nous. Ça nous aide, ça nous sauve. On a beaucoup d'amis qui sont juste géniaux aussi. Donc, ça nous... Pas de place à l'improvisation, quoi. C'est vraiment... je fais des gardes. Donc, par exemple, je vais faire le lundi le jour. Donc, je fais du 8h, 20h, le temps des transmissions. Je rentre chez moi, il est 21h. La nuit du lendemain, donc, tu vois. Donc, il faut que mon compagnon soit là la nuit pour... Hein. Après, je récupère les filles. Enfin, c'est très... En ce moment, l'équilibre est très compliqué. Là, en ce moment, je suis fatiguée parce que non, je suis à 80%. Mais là, en ce moment, j'ai enchaîné les gardes à 100% et je suis juste épuisée, quoi. Donc, j'ai vraiment besoin de vacances. Les filles aussi sont épuisées. L'équilibre, là, en ce moment, je l'ai plus. Là, je l'ai plus. Là, il faut que ça revienne, l'équilibre. Il faut qu'on retrouve quelque chose. Ça va peut-être revenir avec des vacances, ça va nous faire du bien. Ouais, c'est... très millimétré. Hein, c'est avant, là, heureusement, je sais quand je travaille sur du long terme. Donc, je sais en septembre, le 10 septembre, si je travaille ou si je ne travaille pas. Et ça, c'est juste génial. Comme ça, mon compagnon peut se mettre des astreintes en dehors. Alors, quelquefois, on ne se voit pas. C'est ça aussi, la vie. C'est que lui, il fait un week-end d'astreinte où moi, je suis pas de garde parce que sinon, c'est pas possible. Et quand je suis de garde, bah, c'est mes beaux-parents. Et après, la semaine d'après, c'est moi qui suis de garde. Puis lui, il garde les enfants. Donc, quelquefois, on ne se voit pas forcément beaucoup. Ouais, ça me... Il y a des moments où je suis épuisée parce que, justement, moi, je suis là. Hein, je fais à la maison. Mon compagnon, il travaille beaucoup. Moi, je suis là, je fais tout. Enfin, alors, je sais, hein, je ne suis pas à plaindre. J'ai mon compagnon qui est là tous les soirs. Mais, quelquefois, je me dis, bah, quand même, je suis fatiguée. Bon, allez. Tu retrouves un regain d'énergie, mais je suis un peu fatiguée de temps en temps.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi de devenir maman?
Ça a changé vraiment dans ma façon de prendre en charge les patientes. Je pense que j'ai plus du tout la même... Enfin, je pense plus du tout de la même façon. Je sais ce que c'est de la douleur, tu sais. Enfin... pour moi, après je sais qu'il y a des collègues masculins qui n'accouchent jamais, je ne dis pas qu'ils sont mauvais sages-femmes ou pas du tout. Moi, je pense que ça m'a bonifiée, je sais pas, enfin je me sens meilleure sage-femme que quand j'avais pas d'enfant.
Plus d'empathie.
Ouais, j'en avais de l'empathie, mais je sais pas, dans la prise en charge, dans les mots que tu peux avoir pour les patientes quand elles ressentent des choses, je sais, enfin, c'est bête à dire, mais voilà, quand elles n'en peuvent plus, elles ont ce projet-là de tenir et d'accoucher sans péridurale, je sens que j'ai les mots, tu vois, je sens que ben voilà, je peux les booster ou ce que je pouvais peut-être pas avant d'accoucher, j'avais ce. Tu sais pas comment tu... Voilà, tu sais, t'as appris dans les livres. Mais là, de le faire toi-même, ben, je pense que... Ouais, je sens, j'aime ce côté coaching. Je coach beaucoup, je suis très... donc voilà, je pense que je suis meilleure sage-femme. Ça m'a beaucoup changé, ouais.
Et quel conseil tu donnerais à une future ou jeune maman ?
De se faire confiance. Faites-vous confiance, s'il vous plaît. On va vous dire plein d'informations, parce que voilà, il faut vous informer. Mais il faut garder en tête que c'est vous la future maman, c'est vous qui décidez. Ne vous laissez pas embarquer par la belle-mère qui vous dit des choses comme ça. Si vous ne voulez pas allaiter, vous allaitez pas, ça ne sert à rien de se forcer. Mais si vous voulez allaiter, ben allez-y et soyez, ayez confiance en vous. Soyez, il y a de plus en plus de mamans, alors c'est la société qui veut ça, on est seul en fait. On est avant il y avait les grands-parents, les parents, tout ça. Maintenant on est isolé, les grands-parents sont souvent dans une autre ville, et donc je pense qu'il faut vraiment se concentrer sur vous et prendre des informations, vous les prenez et puis vous en faites ce que vous voulez, quoi. Enfin, et alors bien sûr, sauf si le bébé perd du poids, enfin je sais pas, pour un allaitement, mais faites-vous confiance. Moi je vois des patientes, mais après avoir accouché, où les parents arrivent, débarquent, et puis là, ils disent des choses. Mais il ne fait pas comme ci, mais il ne fait pas comme ça. Ah ben nous, à l'époque, on ne faisait pas ci, on ne faisait pas ça. On dit plein de choses. Et puis les patientes, on les voit pleurer le soir. Mais on m'a dit, j'ai été une mauvaise mère, elle m'a dit ça, maman. Alors, ça, c'est compliqué après de retravailler derrière. Donc déjà, si vous accouchez, moi j'ai juste un conseil, ne prévenez personne. Bon, c'est difficile quand on a plusieurs, mais ne dites pas heure par heure, là je suis à 6 cm. Enfin, mettez-vous dans votre bulle, vraiment. Je pense que c'est ça, c'est mettez-vous dans votre bulle. Vraiment, ayez confiance en vous trois, la cellule familiale, ma papa, ou, enfin papa, maman, enfant, ou toute seule, ou une copine, enfin j'en sais rien, ou une compagne. Mais en tout cas, préservez ça, quoi. C'est vraiment, ça c'est important.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman niortaise ?
Alors, un niort, c'est vraiment... je ne connaissais pas. Et on a, ça fait 7 ans maintenant qu'on y est. Donc, ouais, bientôt. Et c'est une petite ville de province. Hyper sympa. Très avec... enfin, tu peux faire plein de choses avec les enfants. C'est vraiment axé sur l'enfant. Et... C'est très bien, enfin moi j'ai le marais de Poitevin à côté, j'ai la campagne dans la ville, enfin c'est, moi j'adore, hein. Vraiment, tout à portée de main, moi je fais beaucoup de choses à vélo, et c'est super.
Et alors quel est ton endroit kids friendly préféré à Niort ?
Moi j'en ai beaucoup, mais à Niort même, dans le marais de Poitevin, moi je sais que ça a quoi, un quart d'heure de Niort, j'y vais avec mes filles beaucoup, parce qu'on peut faire du vélo, il y a des pistes cyclables partout, il y a de la barque, on peut faire de la barque. Nous, on peut faire des balades avec un âne, enfin, ouais, le marais Poitevin. Alors, c'est bête, on ne connaît pas, tout le monde, les gens me disent, hein, c'est où ça ? Non, non, ce n'est pas le marais à Paris, hein, non, c'est le marais Poitevin. Et ouais, on prend les vélos, je prends les vélos des filles, et puis on va se balader, on prend le goûter là-bas, c'est génial. Les filles, elles adorent. Elles vont pêcher, elles prennent un bâton, trois trucs, trois feuilles, puis elles vont pêcher là-bas. C'est vraiment super.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, rien que pour moi, j'aimerais écrire un livre. Voilà. Je sais pas sur quoi. Bon, ça sera sur mon métier, hein, autour de mon métier. J'aimerais. J'ai plein d'idées, c'est pour ça que j'écris pas mal, mais voilà. Et puis en famille, on voudrait partir 6 mois, 1 an, tous les 5, en famille. Donc on ne sait pas où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais en tout cas, on a ce projet-là. Voilà.
Merci beaucoup Tiffany.
Merci Shane.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Tiffany, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 29 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode!